Père Jean-Claude, comme par le passé, vous voulez proposer à nos auditeurs aujourd'hui et dans les émissions à venir quelques ouvrages, tiens, par hasard, dignes de faire partie des cadeaux pour la nativité. Alors vous commencez par un recueil d'homélies. De quoi s'agit-il ?
Au titre simple, pour un joyau. Donc, homélie, le cycle des 12 fêtes majeures de Saint Grégoire Palamas. Ce livre vient de paraître aux excellentes éditions Lis et Parle.
Vous nous avez déjà présenté plusieurs livres parus auprès de ces éditions.
Oui, et le dernier que j'ai présenté ici sur RCF, c'était donc les lettres pastorales aumoniales d'Égine, de Saint Nectaire d'Égine. Et celui-ci a enchanté bien des lecteurs. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais rendre hommage à ces éditions indépendantes portées par son fondateur et directeur depuis 2003, Georges Hadji Minalglou, qui a lui-même souhaité, étant orthodoxe, élargir ses publications initialement et toujours consacrées d'ailleurs à la culture, en créant donc cette collection Patrimoine orthodoxe. Alors pour nous, orthodoxes, c'est un signe de fécondition et d'enracinement de la présence orthodoxe dans notre pays.
Donc c'est un beau livre là que vous tenez en main.
Oui, et il est agréable à tenir en main, en effet, avec une belle typographie, un papier de choix. Et ces qualités que j'apprécie rendent hommage à l'auteur donc, de ces homélies.
Alors un recueil d'homélies, dites-vous.
Oui, des homélies concernant le cycle liturgique des 12 fêtes majeures de notre Église, dont l'auteur est donc Saint Grégoire Palamas, que nos auditeurs doivent certainement connaître, car j'en ai déjà parlé ici sur RCF.
Oui, enfin si vous permettez, vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire.
Oui, alors j'en ai parlé plusieurs fois, d'autant que nous fêtons particulièrement chaque année lors du deuxième dimanche du Grand Carême de Pâques. Alors, disons d'emblée que Saint Grégoire Palamas a été l'auteur de la synthèse théologique byzantine la plus remarquable, juste avant la fin de l'Empire byzantin, en 1453, avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Saint Grégoire Palamas naît à Constantinople en 1296 et meurt en 1359 à Thessalonique, dont il était devenu archevêque. Alors, entre ces deux dates, on peut diviser sa vie en trois parties. Orphelin de père, assez jeune, brillant élève, son éducation est prise en charge par l'empereur Andronique II. Pour mémoire, je peux rappeler que cette époque est celle de la fin de la Renaissance dite des paléologues, avec quelques exemples comme la fameuse édification de l'église Saint-Sauveur in Cora, dont les fameuses mosaïques et les fresques sont mondialement connues, rappelez-vous la célèbre Anastasie. À 19 ans, il part avec ses deux frères pour le mont Athos. Il restera 40 ans, menant une vie strictement contemplative, adonnée à la prière ininterrompue. Je vous passe les détails. C'est la fameuse controverse hésicaste dans les années 1340 qui fera sortir Grégoire Palamas de l'Athos. Entre-temps, il aura combattu les velléités d'union des églises de l'empereur avec ses traités apodictiques ou démonstratifs sur la possession de l'Esprit-Saint. Alors, deuxième temps, la controverse avec Balaam le Calabrais à propos de la pratique hésicaste avec la méthode de prière va donner à Saint Grégoire Palamas l'occasion de mettre tout son talent pour défendre les moines accusés par ce philosophe avec son œuvre maîtresse, donc Triade pour la défense des saints hésicastes. Saint Grégoire Palamas a, aux yeux de l'orthodoxie, rang de père de l'Église, comme par exemple les pères cappadociens. Alors cette deuxième partie de sa vie, très agitée, il sera d'ailleurs un moment excommunié puis rétabli, durera donc environ une dizaine d'années. Alors la dernière partie de sa vie le voit donc archevêque de Thessalonique, il est consacré en 1347 et en fait il ne pourra rejoindre sa ville qu'en 1350 du fait des trous très importants liés à la crise sociale et politique dite des Zélotes. Il fera œuvre de paix, de réconciliation, et c'est de cette période que datent la plupart donc, des homélies présentées dans ce livre. Donc elles sont au nombre de 24 et couvrent donc le cycle des grandes fêtes. Il manque simplement la fête de l'exaltation de la croix du 14 septembre. Par contre, il y a une homélie consacrée à la croix, celle du troisième dimanche du Grand Carême. Alors, dernière chose à préciser, Saint Grégoire Palamas meurt donc le 14 novembre 1359, et il fut, après une vénération populaire constante, canonisé en 1368. Alors, une telle canonisation si rapide est un fait rare dans notre Église.
Alors, nous sommes à 3 semaines de la Nativité. Alors, on va s'arrêter quelques instants. Vous nous proposez d'écouter la Katavasie de la première ode des matines du dimanche avant la Nativité, en ton 1, chantée par le chœur byzantin serbe. Voilà, extrait de cette catavasie qui veut dire, Père Serge Ricot,
descente.
La descente. Voilà, merci. Vous êtes dans les chemins de l'orthodoxie, donc avec le Père Jean-Claude Gurnade sur RCF pour évoquer donc, les homélies pour les grandes fêtes de Saint Grégoire Palamas. Alors, l'homélie que vous voulez nous présenter brièvement aujourd'hui, Père.
Oui, donc toutes ces homélies sont de véritables petits traités de catéchèse. D'ailleurs, deux d'entre elles sont données pour telles. Leur lecture demande une attention assez soutenue, mais quel régal, si je puis m'exprimer ainsi, car au bout de leur lecture, nous nous rendons compte que nous avons été réellement nourris d'une nourriture solide et vraie. Alors si je me peux me permettre de vous rapporter la confidence que m'a exprimée Georges, le directeur de ces éditions, à propos de cet ouvrage, j'espère qu'il me pardonnera cette indiscrétion, voici ce qu'il me disait. « C'est vraiment un très beau livre qui m'a transformé personnellement. » Saint Grégoire est vraiment un grand maître. Mais avant d'être transformé, il faut lire. Alors, au fil de ces pages, nous découvrons un Grégoire Palamas imprégné d'écritures, particulièrement du Premier Testament qu'il cite à tout bout de champ. Nous sommes dans la période d'avant la Nativité. Il faut le voir et lire comment il manie l'ensemble des ancêtres du Seigneur, personnage biblique par excellence, présenté dans l'homélie d'ailleurs à l'occasion du dimanche des ancêtres, dimanche qui précède la nativité dans notre tradition.
D'accord. Alors peut-être revenons à l'homélie que vous voulez nous présenter.
Oui, vous avez raison. Alors dès les premiers mots, Saint Grégoire nous invite à prendre de la hauteur et je le cite. « C'est aujourd'hui la fête de la naissance virginale. Mon discours par nécessité doit s'élever à la hauteur de cette fête et pénétrer le mystère autant qu'il est possible. Je vous prie donc mes frères, faites un effort pour élever votre pensée afin qu'elle reçoive avec plus de force la lumière de la divine connaissance comme enflammée par un astre divin. » Et il poursuit en nous faisant entrer dans le cœur du mystère. « Oui, le Verbe prééternel, que rien ne peut circoncire, maître de l'univers, est enfanté aujourd'hui dans une grotte, comme un sans-foyer, un sans-abri, un sans-domicile. Comme un nourrisson, il est déposé dans une mangeoire. Il se laisse voir par des yeux, touché par des mains, il est enveloppé de l'ange. Ce n'est pas une essence spirituelle qui vient à la création et n'existait pas auparavant, ni une chair introduite dans un devenir pour se dissoudre peu après, ni une chair et un intellect s'assemblant l'un à l'autre pour constituer l'unité d'un être vivant doué de raison. C'est Dieu et la chair mêlée sans confusion par l'intellect, le nous divin, dans l'existence d'une seule hypostase divino-humaine. Celle-ci est entrée un certain temps dans le sein virginal, en qui et à partir de qui le Verbe suressentiel est venu à l'aide par la bienveillance du Père et la coopération de l'Esprit-Saint. Dans ce court extrait, nous avons pu repérer assez facilement, je pense, ce que les conciles, en particulier celui de Chalcédoine, ont exprimé. En Jésus-Christ, les deux natures humaines et divines sont unies, sans mélange et sans confusion, et l'affirmation de l'existence donc d'une seule hypostase divino-humaine. Alors, nous sommes loin des homélies purement faites de paraphrases du texte biblique de l'Évangile du jour. Nous avons ici l'affirmation claire de la foi chrétienne et orthodoxe. Si l'homélie ne répète pas le texte biblique en le paraphrasant, elle n'en est pas moins sensible à sa littéralité. Saint Grégoire n'hésite pas à parler de la grotte et montre sa sensibilité sociale. Un sans-foyer, un sans-abri, un sans-domicile, des termes bien actuels, n'est-ce pas?
Oui. Père Jean-Claude, nous voyons bien la force doctrinale qu'offre cette homélie, ainsi son souci social, hein, semble-t-il. Et ce doit être le cas des autres, mais maintenant, est-ce que vous pouvez vous venir à l'aspect plus moral que propose l'homélie?
Oui, voyons maintenant la fin de l'homélie. La parénèse, c'est-à-dire l'exhortation finale, qui a un caractère généralement moral. Ici, c'est plutôt une invitation à accueillir la paix qui vient d'en haut en ce temps de nativité. Alors voilà ce que dit Saint Grégoire Palamas. « Mes frères, gardons cette paix avec nous de toute notre force, car nous l'avons reçue en héritage du Sauveur qui vient d'être enfanté et qui nous a donné l'esprit d'adoption grâce auquel nous devenons héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. » Alors nous avons ici encore l'aspect doctrinal exprimé par Saint Grégoire Palamas. Alors voyons comment il poursuit. « Soyons donc en paix avec Dieu en accomplissant les œuvres avec qui lui sont agréables, l'intégrité, la vérité, l'action juste, l'assiduité dans les prières et les supplications. » Et là il cite acte 1, « en chantant et en louant Dieu de tous nos cœurs. » Et là il cite Éphésiens, « et pas seulement des lèvres. » Nous le voyons donc Ici, toujours soucieux de citer abondamment l'Écriture. Poursuivons. Soyons en paix avec nous-mêmes, en soumettant la chair à l'esprit, en choisissant un art de vivre accordé à notre conscience et en mouvant le monde intérieur de nos pensées avec mesure et sainteté. Car c'est ainsi que nous mettrons fin à la véritable guerre civile, celle qui a lieu en nous-mêmes. Soyons en paix les uns avec les autres, en nous supportant, en nous pardonnant mutuellement, si nous avons quelques motifs de nous plaindre d'autrui, comme le Christ nous a pardonné, c'est Colossiens. Montrons notre mutuelle miséricorde née de notre amour mutuel, tout comme le Christ qui, par son seul amour pour nous, fut miséricordieux et descendu jusqu'à nous pour notre salut. Saint Grégoire donc nous invite donc à la paix d'abord, avec nous-mêmes, puis avec les autres, car c'est ainsi, nous dit-il, nous pourrons accueillir la grâce et parvenir ensemble à la communauté dans les cieux. Reprenons ici une parole de l'Écriture, Philippiens 3, 20. Alors j'aime bien cette citation que Saint Grégoire nous propose en parlant de communauté. Nos Bibles, nos traductions habituelles, parlent généralement de notre cité à nous dans les cieux. Peut-être nous retrouvons ici le moine qui vit dans sa communauté, communauté qui donc ici-bas permet déjà de vivre une partie de la réalité qui nous est promise. Oui, le christianisme est un déjà là et pas encore que la vie monastique tente peut-être de réaliser.
Vous nous emmenez loin, Père Jean-Claude, alors.
Oui, oui, peut-être, mais cela illustre bien que ces homélies si riches nous proposent un chemin non seulement catéchétique, mais aussi une possibilité d'approfondissement. Donc nous avons ici un livre digne de figurer dans toutes les mains, et pourquoi pas justement à Noël.
Voilà, suggestion faite, donc je rappelle le titre, peut-être Homélie, le cycle des 12 fêtes majeures de Saint Grégoire Palamas aux éditions Lis et Parle. Merci Père Jean-Claude.
Merci Violaine.
Et nous sommes dans le plateau SPI avec le Père Serge Ricot, le pasteur Samuel Duval, la pasteur Corinne Gendreau et la petite sœur de Jésus, Françoise, l'invitée de Serge, qu'on entendra tout à l'heure. Des réactions à ce qu'on vient d'entendre?
J'ai une question, même si les comparaisons ne sont pas toujours astucieuses. Est-ce qu'on peut dire que Grégoire Palamas tient la place dans l'orthodoxie que Thomas d'Aquin tient la place dans le monde occidental, hein, comme théologien?
Non, parce que je parlais de synthèse byzantine. Ouais. C'est une synthèse byzantine qui est spirituelle, voire mystique. Saint Thomas d'Aquin a une ambition différente, je crois, dans sa synthèse, sa fameuse somme théologique. Quoique c'est un peu différent quand même. Hein. D'accord. Mais c'est des monuments tous les deux. Hein.
Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est peut-être le point qui fait qu'entre orthodoxes et protestants, on est toujours très proches, c'est que là, on voit bien l'importance de l'homélie, on voit l'importance de l'enseignement à partir du texte, même si on peut partir très loin. Et que l'enseignement, que la construction spirituelle, qu'elle ne se fait pas juste par une pratique, mais elle se fait par une parole. Moi, ce que je retiens, c'est l'importance de ce que nous, on appelle la prédication, et donc d'annoncer l'Évangile.
Il faut se rappeler qu'on est bien avant l'invention de l'imprimerie et qu'on n'avait pas de texte. Donc, le seul moyen d'avoir une catéchèse substantielle était, en fait, la prédication à l'Église. Hein.
C'était le plateau SPI, les chemins de l'orthodoxie. Merci au Père Jean-Claude Gurnad. Demain, on retrouvera à la même heure Paysage protestant avec le pasteur Samuel Duval. La suite de votre programme sur RCF, c'est tout de suite un air de sortie. Bon après-midi à tous.